Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Faire une lecture qui va nous situer dans un passage que vous connaissez, hein. Je suppose que ce texte, vous l'avez lu et relu, probablement, mais il met en évidence des vérités de l'existence des hommes, de la vie des hommes, des choses qui ne sont pas forcément, qui ne sautent pas aux yeux, si l'on peut s'exprimer ainsi, des choses qui pourtant, sont des réalités. Alors vous allez le comprendre tout de suite, je vous invite à ouvrir l'évangile de Matthieu au chapitre 17, verset 14. Il est bien justement de pouvoir, lorsque nous sommes appelés à prêcher l'évangile, à annoncer le message de Jésus, de ne rien laisser de côté. Paul disait, je vous annonçais tout le conseil de Dieu, c'est-à-dire toute la parole. Alors il y a des choses qui sont à dire, des choses qui sont à affirmer, parce qu'elles font partie tout simplement des vérités dont les hommes doivent être informés. Alors voilà, donc Matthieu 17, verset 14, « Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Alors vous avez remarqué avec moi, il y a un mot qui apparaît dans le questionnement des disciples, c'est pourquoi. Et c'est sur justement cette interrogation, sur ce questionnement, que nous allons fonder et commenter cette histoire. Pourquoi ? Il y a probablement autour de nous des milliers et des milliers de gens, et je pense que je suis en dessous de la vérité, qui s'intéresse ou qui s'interroge particulièrement avant de s'y intéresser, à des phénomènes qui échappent à la raison humaine, qui sont là, c'est vrai, dont les gens constatent la réalité et constatent la réalité par les effets ou les conséquences. Et ils se disent, mais il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a quelque chose que nous ne comprenons pas derrière certaines situations de maladie, par exemple, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, derrière peut-être des déroutes spirituelles, ça peut arriver, derrière des infortunes de la vie, telles que le marasme dans une famille ou dans les affaires. Derrière peut-être, et je ne vais pas radicaliser, ça fait partie justement de la réflexion, mais je ne généralise pas, derrière des accidents de la route, ou des accidents tout court, à travers des revers de fortune, toutes sortes de circonstances qui arrivent, surviennent brutalement dans la vie des individus, et ils se disent « Pourquoi ?» Comme les disciples disaient, mais pourquoi n'avons-nous pas pu ? Bon, en l'occurrence, il s'agissait d'une délivrance d'un enfant dont nous allons apporter un commentaire d'ici quelques instants, un enfant qui était troublé dans son psychisme, avec des conséquences physiques, et qui était et qui faisait la détresse de ses parents, en l'occurrence son père, qui l'amène vers Jésus pour que Jésus fasse quelque chose alors que personne ne pouvait rien faire, ou personne n'avait jamais pu rien faire, y compris les disciples de Jésus. Alors nous sommes devant un cri de détresse, devant l'incompréhensible et l'impossible, parce que Jésus va le dire. Eh bien, si vous aviez la foi gros comme un grain de moutarde, s'énervé, vous diriez à cette montagne, vous la voyez la montagne là, eh bien, pars d'où tu es et transporte-toi là, eh bien cela se ferait, parce que rien n'est impossible à celui qui croit, tout devient possible à celui qui croit. Donc, l'impossible avec Dieu devient impossible pour nous, avec Dieu devient possible. C'est ce qu'il nous est dit au verset 14, et je reprends le texte. Lorsqu'ils furent arrivés, lorsque Jésus fut arrivé près de la foule, un homme s'est précipité vers Jésus, il s'est mis à genoux devant lui, et lui a dit cette prière, ce cri, sa détresse. « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. » Voilà. Voilà l'objet de la démarche de ce père. Voilà ce qu'il voulait dire à Jésus. Il ne va pas faire un grand discours, mais il va lui dire l'objet de sa venue, de sa requête. Au verset 15, nous l'avons lu, « Aie pitié donc. » C'est un appel à la compassion devant une situation d'impossibilité parce que son enfant, eh bien, est profondément tourmenté et il va donner un nom. Il va dire, c'est mon fils est lunatique. Alors, on va expliquer un peu les choses. Il est lunatique. Alors, on va naturellement essayer de voir ce qu'il y a derrière les mots. C'est un langage populaire, hein. Aujourd'hui, on le dit plus, hein, ça, mais il y a quelque temps, quelques décennies, on parlait de lunatisme. Des gens qui... Aujourd'hui, la médecine a réformé tout ça, elle donne des mots savants, et etc. Mais ça revient au même. Hein. Les perturbations sont toujours les mêmes, le trouble est toujours le même. Le lunatisme. Qu'est-ce que nous apprend la Bible par rapport à ça? Elle nous dit que c'est une croyance répandue parmi les hommes, dans l'humanité, tout simplement, qui s'attache à penser tout simplement que la lune a une influence néfaste sur l'état d'un malade et qui va altérer ses humeurs. C'est la définition du dictionnaire. Voilà, le lunatisme, c'est ça. Hein, alors, on essaie de regarder un petit peu tout ça, on essaie de dire, voilà, la pleine lune, quart de lune, et ceci et cela. Bon, c'est vrai que ça touche un petit peu ça frôle un peu l'astrologie, tout ça, si on peut dire. Hein. Voilà. Mais il y a des gens qui y croient, et c'est probablement dans les campagnes, et certainement encore aujourd'hui. Hein. Modification du caractère, modification du tempérament, des humeurs, etc., etc. Vous remarquerez que dans l'Écriture sainte, le lunatique est distingué du démoniaque. Oui. Et en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que cet enfant dont le père vient solliciter le secours de Jésus, eh bien, cet enfant, il nous est dit qu'il souffre cruellement. C'est pas qu'il souffre, mais il y a là quelque chose qui amplifie finalement la douleur, la peine, le chagrin et par-delà le côté certainement moral de l'impuissance et de l'impossibilité. Ce qui fait que, qu'est-ce que l'on peut faire? Et tout ça, c'est résumé dans cet adverbe « cruel »,« cruellement ». Voilà la constatation. Je suppose que si ce père vient vers Jésus avec son cri de douleur, tel que nous le lisons, tel que nous l'entendons, eh bien, certainement qu'il avait été le témoin, ce père, et la famille également, toute la famille, eh bien, de crise qui survenait comme ça à un moment ou à un autre. Et peut-être qu'on leur avait dit, bien, c'est en fonction de la lune, la position de ceci et cela, etc. Et nous voyons que tout cela augmente le désarroi, la douleur de cette famille, sans moyen efficace de soulagement et qui laisse une terrible situation de perplexité. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, je pense qu'il y a aujourd'hui des familles, qu'il y a probablement des pères et des mères, qu'il y a probablement également des enfants par rapport à leurs parents, devant des situations où il n'y a que l'inexpliqué. Il n'y a rien à dire et rien à faire. Et qui laisse dans une profonde perplexité, et je voudrais vous dire, qui, quelque part, amène, dans une certaine forme, un tel malheur, un tel drame, que la vie ne peut plus être une vie normale. À travers toutes sortes de crises, à travers toutes sortes de manifestations, et qui détruit quelque part le bonheur, qui détruit la joie, qui détruit eh bien, tout simplement la normalité d'une vie. Et c'est terrible. Nous avons connu ce genre de situation dans certaines familles où un enfant était malade. Et là, sans recours, même avec la médecine d'aujourd'hui, il n'y avait rien à faire. Et je peux vous dire que tout est mobilisé sur l'enfant. Toute la vie est mobilisée, les frères et les sœurs, les parents, d'autant plus toute la famille. Et je peux vous dire que c'est un problème gigantesque. Et aujourd'hui, nous avons encore des gens qui sont arrêtés dans le cours de la vie et voilà, ils sont pris dans un filet, ils ne peuvent pas s'en sortir. C'est comme ça. Alors ils ont peut-être regardé de droite et de gauche, ils sont allés peut-être de médecin ou de spécialiste en spécialiste et puis on leur a dit « mais on ne peut rien faire pour vous ». Voilà, ça relève de quelque chose qu'on ne comprend pas. Et toutes les thérapies utilisées, eh bien, n'ont pas donné leur effet. Et nous apercevons que c'est là où justement il y a un double danger. Quand on ne trouve pas de solution, quand la médecine est insuffisante, quand les hommes sont dans l'incapacité, la tentation justement est de trouver des solutions plus pernicieuses que le mal lui-même. Et c'est malheureusement ce que nous voyons des gens qui se tournent vers l'occultisme, vers les guérisseurs, vers toutes sortes de moyens qui font partie d'une médecine que l'on appellerait médecine parallèle, qui, rencontre beaucoup de succès, parce que quand les moyens humains sont insuffisants, alors à ce moment-là, on se voue corps et âme à quelque chose qu'on ne connaît pas, quelque chose qu'on ne comprend pas, où il y a, il faut bien le dire, quelques résultats. Mais résultat n'est pas synonyme d'authenticité et de vérité. Avec ce que nous avons pu constater, et qui fait partie quelquefois des gens qui viennent nous rejoindre à écouter l'évangile pour obtenir une délivrance, c'est-à-dire que au lieu de délivrer du mal, il y a transfert du mal. Je voudrais quand même le rappeler, parce que ça c'est important. Et à partir du moment où les gens viennent à la connaissance de l'évangile, eh bien Jésus les délivre et les guérit, et il va aussi les guérir dans une autre dimension, au niveau de leur ignorance, de ce monde de l'occultisme, de ce monde de ténèbres. Et Jésus dit, nous voyons que les mots sont clairs à travers ce que nous avons devant les yeux. Et les caractéristiques de ce mal, de cet enfant, c'est que Jésus dira, enfin le Père dira à Jésus, il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Voilà, il souffre cruellement, et je l'ai amené parce que tes disciples, même tes disciples Jésus, qui t'ont vu faire tant de miracles, ont été complètement incapables de faire quelque chose. Voilà. Ça, ce sont les, nous pourrions dire, les voies sans issue auxquelles nous pouvons être confrontés. Ils tombent dans le feu, dans l'eau. À vrai dire, aujourd'hui, on pourrait dire que cet enfant était atteint, eh bien, d'un état voisin de l'épilepsie. Voilà, si on veut peut-être s'en tenir aux caractéristiques de son mal, avec des crises aiguës, des crises soudaines, spontanées, perte de connaissance, perte de conscience, des convulsions. Dans un autre texte, il nous est dit « il grince des dents, il écume ». Voilà, donc on a un petit peu le profil, eh bien, de ce que peut être ces crises d'épilepsie. J'aimerais justement dire et relire, simplement, je vais vous le lire pour vous, dans Marc chapitre 9, eh bien, il est parlé justement, peut-être un peu plus précisément, il nous est dit au verset 17, cette parole. Voilà, le Père dit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Voilà, la caractéristique, voilà, c'est un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de le chasser, mais ils n'ont pas pu le faire, naturellement. Alors, je voudrais quand même revenir sur la situation de l'enfant épileptique. Je vous l'ai dit, c'est une croyance populaire d'influence lunaire. Hein? Enfin, ce que les hommes en disent. La Bible dit autre chose, naturellement. Jésus dévoile une autre origine du mal à travers la présence d'esprits, certes invisibles, inconnus des hommes, mais des esprits méchants. Si nous voulons aller un peu plus loin dans notre recherche, entendons ce que nous dit l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 6, quand il dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire la dimension humaine, naturelle, l'humanité, ce que nous sommes, fait de chair et de sang, bon, que nous connaissons bien et qui appartient, eh bien, au monde médical et avec, naturellement, ses succès, ses délivrances, ses guérisons. Mais, il nous est dit, mais nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des autorités, des dominations et des principautés des esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible nous amène de plein pied à ouvrir nos yeux et nos cœurs, ou nos cœurs et nos yeux, sur des réalités d'un monde qui existe, qui a toujours existé, et qui fait partie de cette mouvance que l'on appellera occultisme, magie, toutes ces choses qui existent dans notre monde. Et on le sait, on en connaît les conséquences et les effets, à travers le mal, à travers les violences, à travers toutes ces choses, science occulte et science occulte, ça veut dire caché. Crypto, c'est-à-dire caché, dissimulé, on ne voit pas. Et pourtant, ce sont des réalités. En dualité avec les hommes et avec le créateur des hommes, c'est-à-dire Dieu. Ou comment le diable se cache derrière de fausses croyances universellement reconnues, ou répandues, ou crues comme vérité. Il est lunatique. Mais faut pas s'arrêter là. Parce que là, c'est très primaire comme connaissance. Cet enfant, eh bien, était dans cet état. On apprend également que, de par le Père, sa confession, que l'esprit de cette maladie ou de ce dérangement qui est étrange est lié à la famille, soit par hérédité, je ne veux pas trop m'attarder sur la question, soit par consentement, mais dans l'ignorance d'un monde spirituel. C'est pour ça que les gens, quand ils sont malades, ils courent sans savoir vers les guérisseurs parce qu'on leur a dit, voilà, hein, cet homme il fait ceci, cet homme il fait cela, etc., etc. Mais on consent. Mais c'est dans l'ignorance, parce que quand on lit la Bible, on sait l'envers du décor. C'est pour ça que la parole de Dieu est une lumière. Et c'est pour ça que Jésus dit « Je suis la lumière » et que dans le psaume, il nous est dit « Mais ta parole est une lumière, une lampe à mes pieds, c'est elle qui nous éclaire. » Et un chrétien qui a compris ça, il ne remet jamais plus les pieds. Ou peut-être il avait été auparavant dans son ignorance, ou dans sa méconnaissance. Ou alors, tout simplement, eh bien, c'est un lien qui tient les hommes dans l'impuissance de la résignation en disant, eh bien voilà, puisque personne ne peut plus rien faire pour moi, eh bien voilà, je vais aller ici, je vais là, ou alors je peux plus rien faire, comme dans le cas de cet homme, il ne pouvait plus rien faire. L'acte de délivrance met en évidence, la solidarité entre le père et l'enfant, entre les parents et l'enfant, soit, et vous allez le reconnaître, soit par la foi ou soit par l'incrédulité. Ce qui fera dire à l'apôtre Paul, eh bien, quelque chose, c'est que la libération d'un membre d'une famille peut ouvrir ou peut concourir à celle de toute la famille. Et une nouvelle interprétation, une nouvelle vue sur ce que Paul dit au geôlier de la ville de Philippe, si tu crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors le salut, c'est vraiment le salut dont le texte nous parle, mais sauvé, ça veut dire aussi guéri, ça veut dire aussi délivré, ça veut dire aussi libéré. Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous voyons que c'est pas l'enfant qui avait la capacité de pouvoir croire dans l'acte de délivrance ou de guérison de Jésus, mais ça a été le Père. C'est pour ça qu'il y a une solidarité. C'est le Père qui a cru, finalement, à ce qui allait se faire et intervenir. Et là encore, il est bon peut-être que nous ouvrions encore notre Bible dans l'évangile de Marc, toujours le même chapitre, hein, et au verset 22-25, on a des précisions sur la question. Alors, chapitre 9, verset 22-25, il nous est dit ceci, « Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu, on l'a déjà vu, pour le faire périr, mais le Père va dire ceci, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux. » Tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Voilà le cri. Viens au secours de mon incrédulité. Alors il y a quelque chose qui est tout à fait particulier. c'est que la délivrance, elle repose sur une chose, c'est la foi. Et ce père va prendre conscience qu'il est lui aussi prisonnier de quelque chose, pas à la manière de son fils, mais aussi grave, c'est qu'il y a quelque chose dans sa douleur et dans sa détresse qui a fait que son cœur n'arrive plus à croire. Et quand on n'arrive pas à croire ou quand on n'arrive plus à croire, ça s'appelle de l'incrédulité. Mais le Père prend conscience à ce moment-là, en présence de Jésus, alors qu'il lui dit « Mais si tu peux quelque chose, mais bien sûr que Jésus peut tout. » Jésus est interloqué par cette question. « Bien sûr que je peux quelque chose. » Et le Père va prendre conscience que quand Jésus va lui dire « Mais si tu crois, alors à ce moment-là tout est possible. » Tout est possible à celui qui croit. Cet homme va tomber probablement encore sur ses genoux et il va se mettre là devant Jésus en disant mais viens au secours, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, autre détresse. Mais il a pris il a fait la belle prière et la bonne prière qu'il fallait. Je crois, mais délivre-moi de mon incrédulité. Et vous savez, s'il y en a un qui travaille à nous rendre douteurs ou à nous rendre incrédules, eh bien c'est justement ce monde des esprits. Ça a toujours été le même trafic, ça a toujours été la même méthode qu'il a employée depuis le premier jour de la chute en Éden. Est-ce que Dieu aurait réellement dit ? Et là, quand on est en détresse, on a du mal à croire. Quand on est dans une situation d'impossibilité, on a du mal à croire que Dieu peut tout, que Dieu veut et qu'il peut faire quelque chose. Et ce Père va saisir à un moment donné, il va saisir au bon, on pourrait dire, quand Jésus va lui dire « Mais tout est possible à celui qui croit », alors cet homme va être complètement confondu et il va comprendre à ce moment-là qu'il tient la solution et il implorera Jésus et il affirmera, il dit « Je crois Seigneur, je veux croire, pas pour moi mais pour mon fils, mais délivre-moi de cette peste, délivre-moi de cette prison dans mon cœur qui me rend incrédule, qui endurcit mon cœur et qui m'empêche d'aller justement chercher auprès de toi, eh bien, la guérison de mon enfant, c'est important ». Et c'est important pour chacun d'entre nous parce que lorsque nous butons contre les murailles de Jéricho ou une autre, les murailles de l'incrédulité, eh bien à ce moment-là, approchons-nous de Jésus et faisons comme ce Père. Je crois, Seigneur, mais viens me délivrer. Mon cœur est malheureux, mon cœur est malade, je n'arrive pas à croire, mais toi tu peux me donner la foi, tu peux me rendre finalement eh bien cette confiance ou me donner cette confiance en toi. Et je sais que cette confiance en toi, elle sera récompensée. Ma prière sera exaucée. Alors, crois, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. À partir d'un homme qui va croire, c'est toute la famille, l'enfant va être guéri, témoignage de la puissance de Dieu, parce qu'il va être guéri, et après, ça sera certainement toute sa famille. Alors, c'est quelque chose de tout à fait particulier, tout à fait sensible pour chacun d'entre nous. Et voilà que, par la suite, il nous est dit, le Père continue, il dit « Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus répondra avec sévérité, hein, parce que Jésus s'est toujours étonné de l'incrédulité des hommes. Il est admiratif de la foi, mais « Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous, jusque à quand vous supporterai-je, amenez-les-moi ici. » Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui. Et l'enfant fut guéri alors même. Alors, nous l'avons vu précédemment, les disciples ont été sollicités par le Père, mais les disciples, finalement, n'ont rien pu faire. En réalité, c'est un démon. C'est une maladie à caractère spirituel, mais pas du spirituel divin, mais d'un spirituel diabolique. Alors, j'ai l'habitude de dire, quand je prêche ce genre de choses, que, croyez-moi, je ne vois pas les démons partout. Non. Mais je connais la puissance qui est en Jésus-Christ, pour éclairer nos cœurs et nos yeux, pour nous montrer la réalité, pour nous montrer combien ce monde occulte rend les gens malheureux, les asservisse, les tyrannise, ruine leur existence. Physiquement, moralement et spirituellement. Et les disciples n'ont rien vu. Et n'allons pas penser que le démon est toujours trop puissant. Moi, je voudrais vous dire quelque chose. Le démon n'est jamais trop puissant. Ce n'est que notre foi qui est trop faible. Voilà le problème humain. C'est notre foi, parce que devant la foi d'un homme qui croit, qui produit, qui finalement proclame « Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité », le Seigneur vient tout de suite à son secours et lui donne et remplit son cœur de foi. C'est notre foi qui est trop faible. C'est ça le grand problème. Nous l'avons dit, les disciples ne peuvent rien. Les raisons. Les raisons, bien. Ils devaient être certainement sans équipement spirituel. Pourtant, Jésus les avait déjà envoyés. Chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts. Mais là, ils ne savaient plus comment faire. Comme quoi, on est souvent repris par nos doutes et notre incrédulité, vous comprenez. Et c'était les disciples, c'était pas n'importe qui. Donc, sans équipement spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le texte que je vous ai cité, dans Éphésiens chapitre 6, il nous a dit « Prenez toutes les armes de Dieu ». Ouais, vous lirez ça, j'ai pas le temps de le commenter, mais dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, puis il y a tout un chapitre, vous verrez les armes de Dieu. Et entre autres, au cœur de ces armes, il est question de la foi et de la prière. La prière de l'esprit, le bouclier de la foi, devant lequel, eh bien, tous les traits enflammés du malin, eh bien, sont réduits à néant. Probablement un manque de prière, puisque Jésus dira, ce genre de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Bon. Et puis, l'absence de perspicacité spirituelle, puisqu'ils n'ont pas su identifier que le mal de cet enfant, ils étaient complètement décontenancés, et il dit, mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Heureusement que Jésus est arrivé à ce moment-là, parce que lui, il a apporté la solution, avec un reproche pour les disciples, quand il leur dira, mais race incrédule et perverse. Et Jésus a dit ce qu'il avait à dire. Manque de perspicacité spirituelle, mais vous croyez que l'Église aujourd'hui, même au milieu de nous, quelquefois nous manquons de discernement des choses? Et alors, que dire des gens de l'extérieur qui ne connaissent pas la Bible? Ils n'y voient que du feu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Par contre, ils savent très bien recourir quand il faut aller dans un cabinet obscur ou aller chez un guérisseur. Ils ne savent pas pourquoi, finalement, ce qu'il y a derrière, mais ils s'abandonnent, finalement, là, tout cela, et peu importe. Peu importe. Un manque de foi, dira Jésus. Et c'est toute la problématique de l'incrédulité. Que faire devant l'incrédulité? Qu'est-ce que l'on peut faire devant cela? Pourtant, Jésus dira et marquera, mais tout est possible à celui qui croit. Je vous dis même que si vous diriez à une montagne, ce qui est quand même pas transportable, hein, ouais, que vous lui dites, ou ainsi qu'aux morts, vous lui dites, va d'ici à là, eh bien, ça se ferait parce que vous auriez cette puissance, qui est la puissance du surnaturel de Dieu. Alors, on n'a pas besoin de déplacer les montagnes et de bouger les sycomores, hein. Mais déjà, si nous avions la foi gros comme un petit grain de sénévé, nous ferions des choses extraordinaires. Et ce qui fait la caractéristique de l'Évangile et de la foi dans l'Évangile des hommes d'aujourd'hui comme des hommes d'hier, c'est qu'avec un peu de foi, eh bien, on a vécu, on a vu, on a connu des choses extraordinaires qui ne viennent pas de nous, mais qui viennent du ciel, qui viennent de Dieu. En guérison, en délivrance, d'une façon ou d'une autre. Ça, c'est la problématique de l'incrédulité. Et la première guérison que Dieu veut nous donner, c'est d'abord d'être guéri dans nos cœurs de cette dureté de cœur à croire, de ce rejet de croire. Tout est possible. Alors, nécessité pour l'homme, tout simplement à croire, mais il faut qu'il consente à engager sa volonté à vouloir croire. On peut toujours dire, et moi je l'ai souvent entendu dans le ministère pastoral, les gens sont venus en disant « Qu'est-ce que j'aimerais avoir votre foi ou une foi comme la vôtre ?» Moi je lui dis « Mais c'est possible, moi j'ai rien fait de particulier pour l'avoir, mais c'est possible. Si tu crois, eh bien tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut engager ta volonté, et ça l'homme a du mal. Seigneur, apprends-moi à croire, ou donne-moi la foi pour croire comme tu veux que je croie et que j'obtienne ce que j'ai besoin. Il faut engager sa volonté, c'est le vouloir, et c'est ça justement. Ce que les puissances mauvaises essaient de neutraliser chez l'homme, c'est son vouloir. Est-ce que tu veux? Jésus dira ça à cet homme qui était paralysé depuis 38 ans, c'était pas peu. 38 ans de maladie, paralysé à la piscine de Bethesda à Jérusalem, Jésus lui dira à un moment donné, après une vie passée dans, eh bien là, sur ses genoux, hein, dans son invalidité, Jésus lui dira, mais veux-tu être guéri? Est-ce que tu crois encore que c'est possible? Cet homme a saisi. Il a dit, oui, je crois que c'est possible. Mais il était guéri, tout simplement. Ça n'a rien à voir avec une théorie une théorie religieuse, ce que nous sommes en train de dire. Ça n'a rien à voir avec les miracles de telle ou telle réputation, dans tel ou tel pays ou dans tel département de notre pays. Non, ça n'a rien à voir tout ça. C'est la foi dans l'Évangile et la foi dans la personne de Jésus et de Jésus, simplement. Il y a Marc et Luc qui révèlent que l'Esprit s'empare de l'enfant n'importe quand et n'importe où. Vous avez remarqué, on l'a lu. Dans des lieux à risque, voire des lieux mortels. Soulignons à ce moment-là et au passage la méchanceté et la malignité des mauvais esprits. Ils le jettent dans l'eau et ils le jettent dans le feu. Où il y a derrière ces puissances invisibles que les hommes ne peuvent pas percevoir s'ils ne sont pas éclairés à la lumière de l'Évangile, l'intention meurtrière et suicidaire. Ils se jettent dans l'eau et dans le feu. Alors, vous connaissez les résultats, ce que ça peut avoir. Qui pousse ses victimes dans ces œuvres sataniques dont le but principal est la destruction et de ruiner leur vie. Moi, je crois que derrière un suicide, dans le feu ou dans l'eau, par la corde ou par les médicaments ou les armes à feu ou d'une manière ou d'une autre, il y a quelque chose qui n'est pas naturel. Par l'excès de la souffrance ou de la désespérance, du désarroi, du découragement, et que dire encore d'une détresse immense de la part des suicidants, il y a le coup de main final de l'adversaire, comme une force. C'est pour ça que nous ne jugeons pas. Ou alors, il faudrait connaître justement l'intensité de la souffrance et de la détresse. Il y a Dieu qui peut juger ces choses, moi je m'en garderai bien. Mais une chose qui est certaine, c'est que le dernier coup de main, il vient d'une main meurtrière et maléfique. C'est pas Dieu, Dieu nous a donné la vie pour que nous vivions. Le diable veut reprendre la vie des hommes pour qu'ils meurent et qu'ils perdent leur salut et leur éternité. Ou alors leur éternité, mais dans le mauvais sens. C'est quelque chose, ça. Je me suis trouvé, hélas, dans des situations de suicidant. Je peux vous dire que c'est quelque chose d'abominable, terrible. Et imaginez-vous la détresse de la famille, de l'épouse, des enfants, dans un sens ou dans un autre, homme ou femme. Impuissance des disciples. Alors, nous voyons que Jésus va stigmatiser l'incrédulité. Jésus intervient dans cette situation et nous voyons que les choses vont aller plus loin. Il nous est dit, après avoir admonesté sérieusement les disciples, race incrédule et perverse, Jésus va dire « Amenez-le-moi ici, parce que la solution, eh bien, elle est en moi, et cet enfant sera guéri. » Jésus parla sévèrement au démon, il ne parle pas à l'enfant. Donc, il avait bien identifié qu'il y avait derrière quelque chose qui était étranger à la nature humaine, qui était plus que la nature humaine. Il parla sévèrement au démon. C'est-à-dire que il a intimé l'ordre à cet esprit de destruction, finalement, de sortir de cet enfant. Écoutez, les choses se passent bien. Qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri alors même. Imaginez-vous la joie du père à ce moment-là. Ça a été quelque chose. Intimer l'ordre. Pourtant, nous pouvons dire que, et il faut le souligner, chasser de cette manière, c'est aussi un privilège pour tous ceux qui prêchent l'Évangile, en tous les cas, tous ceux qui croient. Alors ça ne se fait pas comme cela, à tort et à travers. Il faut y être conduit. Moi, je sais que personnellement, dans certains cas auxquels j'ai été confronté, pas moi qui l'ai cherché, mais j'ai vu des gens qui étaient tourmentés, qui était profondément troublé, malade physiquement, malade moralement, à vouloir se supprimer, et de décréter au nom de Jésus. C'est pas au nom du centre évangélique, c'est pas au nom d'Alain, c'est pas au nom de ceci et cela, c'est au nom de Jésus-Christ. Ça peut être été parfois spectaculaire. Ce sont des choses que nous ne racontons pas souvent, mais des choses que nous avons vécues. Où là, instantanément, la personne délivrée, à travers une crise suprême peut-être, une ultime crise, un petit peu à la manière de cet enfant, mais délivré complètement et totalement. Et croyez bien que je ne suis pas un guérisseur. Je ne suis pas un médecin non plus. Je suis pasteur et je prêche l'évangile. Et je crois à la puissance des promesses de Jésus pour la délivrance de tous ceux qui sont malheureux, de tous ceux qui sont en perdition et de tous ceux qui sont tourmentés. Jésus avait fait la promesse, selon les paroles du prophète Ésaïe. Je suis venu, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs et donner la délivrance aux opprimés. Alors l'oppression, c'est pas seulement quelque chose de physique, mais ça peut être moral et spirituel. C'est le cas qui nous intéresse. La parole de Jésus est une parole de puissance. Il a intimé l'ordre, et à ce moment-là, l'être infâme et immonde qui rendait cet enfant malade, eh bien, est sorti. Un mot d'explication pour terminer sur le phénomène du lunatisme. Il y a là un caractère agressif. Nous l'avons vu, les tourments qui sont manifestés. Ou alors, il peut y avoir une apathie. Vous avez des gens qui sont complètement, soit l'agressivité, ça se manifeste, ou alors, tout simplement, l'apathie. Il y a des gens qui ne sont plus devenus que des zombies. Non seulement à cause des traitements médicamenteux, mais en raison, tout simplement, ils sont prostrés. Ils ont les yeux fixes, ils ne bougent plus. C'est terrible, ça, dans un état de dépression, dans un état d'angoisse, d'anxiété, où toute la vie est arrêtée. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'esprit. L'âme est complètement, nous pourrions dire, pris dans, je ne sais pas, dans un étau, quelque part. Avec des sauts d'humeur. Des manifestations, des cris, toutes sortes de choses. Je voudrais pas vous faire peur, Déjà, on a du mal à dormir en ce moment, alors. Mais toujours est-il que ça, ce sont des choses qui ont été constatées. Alors, un médecin, un psychiatre va mettre absolument des mots là-dessus. Il va bien comprendre, mais quand peut-être à pouvoir apporter une délivrance à la manière dont l'évangile le fait, c'est autre chose. On pourra apporter naturellement des calmants, toutes sortes de choses, surtout quand les gens sont particulièrement excités. Des incitations intempestives, voire violentes, un esprit de persécution, ou tout simplement d'accusation, et puis toutes sortes de choses, et qui amènent les gens finalement, à ne plus pouvoir vivre, à perdre le contrôle d'eux-mêmes. Alors je termine avec une dernière chose, c'est quand il est dit ceci un peu plus loin, alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ? La grande question. Aujourd'hui on pourrait poser la même chose, pourquoi ? Alors d'abord, pour savoir pourquoi, il faut revenir à toute cette explication d'un monde invisible. Ouais, nous sommes des terre-à-terre et nous sommes vraiment des cartésiens. Nous ne croyons que ce que nous voyons, mais ça ne veut pas dire que ce que nous ne voyons pas n'existe pas. C'est une réalité. Et c'est pour ça que nous butons souvent. Pourquoi n'avons-nous pu ? Eh bien, Jésus nous explique que dans la Bible, il y a ce monde. Il y a cette réalité divine. Bonne, éternelle naturellement, infinie, toute puissante, avec toutes les qualités morales qui sont en Dieu. Et puis il y a l'autre dimension, qui est une dimension complètement à l'opposé de cette réalité spirituelle, diabolique, satanique, tout ce que vous voudrez, dont toutes les sciences occultes travaillent, sont en lien avec ce monde-là. Et puis il y a le monde des hommes, qui sont au milieu, vous comprenez? Et il n'y a qu'une chose qui va faire la différence, je le souligne encore tout à nouveau, ça sera notre foi ou notre incrédulité. Si nous sommes incrédules, alors à ce moment-là, nous pourrons être manipulés autant que nous pouvons l'imaginer par toutes ces puissances mauvaises. Mais si nous avons la foi en Dieu, alors ça sera Dieu qui va qui va étendre sa grâce sur notre vie. Et il y a bien des choses qui vont s'illuminer, nos yeux vont s'ouvrir sur ces réalités. Et à chaque fois qu'un homme se convertit, qu'il se repent de ses péchés, peut-être du péché de l'occultisme, ou du péché de son ignorance qui l'a amené vers ce monde-là, même à se vouer à ce monde-là, ou à pratiquer ce monde-là, eh bien le Seigneur est capable de pardonner quand on lui demande pardon. Ça s'appelle la repentance. Et à ce moment-là, il y a une vie nouvelle, la conversion à Jésus-Christ. Notre maître, ce n'est plus l'adversaire. Jésus le dira dans le sermon sur le mont. On ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit c'est le diable, Mammon, ou alors c'est Dieu. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Mais moi, j'ai toujours vu que les gens qui se sont repentis, après avoir été éclairés, qui croient, qui se sont convertis à Jésus-Christ, rentrent dans une nouvelle dimension que l'on appelle la nouvelle naissance. Et ça, c'est quelque chose de formidable. Nos yeux s'ouvrent. Et pas seulement les yeux de notre tête, mais les yeux de notre cœur. Pourquoi n'avons-nous pu? Échec humain qui nous projette finalement, eh bien, sur la toute capacité de Dieu pour nous dire que quand nous pouvons pas, mais le Seigneur le peut. Mais il ne le pourra que si nous lui donnons le moyen de le faire, et le moyen que Dieu nous a donné, qu'il a mis à notre disposition, c'est notre foi complète et totale. C'est tout. Notre foi, rien d'autre. Je finis. C'est à cause de votre incrédulité, dira Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, nous l'avons dit déjà. Rien ne vous serait impossible, et Jésus dira, mais en conclusion, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière, le jeûne et la prière. Alors je pense que derrière toutes ces choses, derrière ce voile que nous avons levé ce soir brièvement, il y a quelque chose que nous devons retenir, et qui est la solution à tous nos problèmes. L'apôtre Paul l'écrira, « En toutes choses faites part à Dieu de vos problèmes, par des actions de grâce, des prières et des supplications. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que finalement, notre âme, notre véritable personnalité, sera réorientée sous les mains de Dieu, pour qu'il nous délivre et qu'il nous bénisse. Et nous en aurons fini, c'est vrai, avec cette peste, je l'ai dit, avec ce mal terrible qu'est l'incrédulité humaine. Et si je dis, Seigneur, et je termine sur cette dernière phrase, comme ce père qui posait la question à Jésus, « Mais si tu peux quelque chose ?» Et Jésus de répondre, « Mais tout est possible à celui qui croit. » Et ce Père va saisir cette parole de Jésus, comme ce soir nous pouvons saisir cet enseignement que nous avons, que nous entendons. Et à ce moment-là, nous pouvons dire, mais Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Vous allez voir la différence. Le Seigneur va nous délivrer de ce carcan. Il va nous délivrer de cette prison. Il va nous délivrer de cet empoisonnement dans lequel nous tournons en rond et qui fait l'affaire de l'adversaire pour que nous restions malheureux et que nous demeurions finalement dans nos drames et dans nos souffrances et dans notre problématique de douleur alors que nous avons et que nous sommes si proches du but. Seigneur, augmente-nous notre foi alors que Dieu nous bénisse. Ça n'a pas été écrit pour rien, vous comprenez? Ça a été écrit pour notre instruction. Ça a été écrit pour que nous le comprenions. Et si nous sommes dans les dispositions ce soir pour véritablement comprendre ce message, mais je peux vous dire que ce soit l'eau ou le feu, que ce soit tous les maux qui existent sur la terre trouvent leur solution dans la personne de Jésus en nous appuyant et en croyant sur sa parole. Et sa parole, elle s'appelle tout simplement l'Évangile. Et elles sont remplies de promesses pour tous les malheureux de la terre, quel que soit eh bien, le mal qui les a atteints ou qui les atteint et qui les trouble et qui les rend profondément malheureux. Jésus est venu pour nous délivrer des œuvres du diable. Que Dieu nous bénisse et on va prier quelques instants. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que nous croyons que ta parole, eh bien, ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli tous tes desseins, tous tes plans et accompli ta volonté. Moi, je te prie, Seigneur, pour mes amis qui sont là, qui entendent, qui ont entendu, et je te prie pour tous ceux et celles qui, plus tard, à un moment ou à un autre, à travers une rencontre avec Jésus-Christ ou une rencontre avec la parole de Jésus-Christ, l'Évangile, eh bien, puissent véritablement s'apercevoir que le message de la parole de Dieu est toujours approprié, Seigneur, à l'un ou à l'autre, et qu'ainsi, Seigneur, ces paroles sont des paroles de vie, des paroles de délivrance, des paroles qui nous libèrent de l'oppresseur, qui nous ouvrent les portes de nos prisons intérieures et invisibles, qui nous amènent à prendre conscience que le monde, eh bien, que l'homme qui vit dans ce monde n'est pas dans un contexte neutre, mais qu'il y a un surnaturel divin et un surnaturel divin, un surnaturel divin et un surnaturel diabolique. Nous voulons croire, en effet, Seigneur, que tu es venu pour la vie, et que celui qui nous retient est venu pour la mort. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, quand nous chantons souvent que Jésus nous rend heureux, que Jésus fait tomber nos chaînes, qu'il nous défait de nos liens, eh bien, ce n'est pas l'imagination d'un poème qui a écrit, d'un poète qui a écrit un cantique, ou, en effet, Seigneur, un poème, mais c'est véritablement l'expérience d'hommes, de femmes, par millions, par milliers, en effet, qui savent que, en nous approchant de Jésus, nous avons une pleine et totale délivrance et un épanouissement de notre vie parce que nous avons été créés pour cela. Alors merci Seigneur de nous délivrer des liens, de faire tomber les chaînes, mais il y a une chose, et nous voulons le dire ce soir, Seigneur je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Merci parce que tu as entendu ma prière et tu agis maintenant Seigneur. Merci mon Dieu, merci Jésus. Amen. Voilà, que Dieu nous bénisse les uns et les autres.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.